Jean de la Brette, La source enchantée. Chapitre 1. Parmi mes plus vieux souvenirs, ils ne datent pas encore de bien loin, je me vois dans une maison appelée La Chaumière. Elle s'élevait au pied de grandes falaises, au fond d'un petit vallon, où coulait un ruisseau bordé d'aunes, de saules et de plantes dont j'ignore le nom, car je ne suis pas une savante. Au terme de sa carrière, il entrait dans les dunes pour se faufiler jusqu'à la mer. Le chemin qui longeait son cours s'appelait le chemin des planchettes et jamais chemin ne fut plus joli ni mieux ombragé. Ce ruisseau m'instruisait mieux, selon mes idées d'alors, que le plus docte des traités de botanique. J'éprouvais toujours le même plaisir à suivre ses bords et, arrivé aux dunes, à le regarder glisser avec un délicieux friseli entre sable et galets, à le voir s'engloutir dans les vagues ou à les attendre sur le glacis à la marée basse. Son voisinage embellissait jusqu'aux plantes les plus vulgaires qui, à son contact, se développaient merveilleusement. La marjolaine prenait des airs conquérants et le pauvre Souchet suivait cet exemple. Mon premier geste, en arrivant chez moi avec mes cousins, était de courir vers mon ami et de me laisser prendre à son charme toujours nouveau. Je passais pour sotte, je ne sais trop pourquoi. Mes études, bien que moyennes, étaient suffisantes et je sentais mon cerveau bourré d'idées. Quand j'écoutais gronder la mer ou que, grimpé sur les falaises, je me penchais sur les œillets roses pour en respirer le parfum léger, j'avais certainement du génie, tant les pensées se pressaient tumultueuses dans mon esprit. Seulement, elles n'en sortaient sous aucune forme. Lorsque j'essayais de les balbutier à mes cousins, ils me regardaient avec des yeux arrondis par l'étonnement et m'envoyaient planter des choux. Je parle au figuré. Mais les choux et moi n'avons jamais été bons amis, excepté quand le matin, en automne, les gouttes de rosée scintillent comme des perles de cristal dans leurs feuilles frisées. Monsieur et Madame de Vimiane vivaient d'une forte rente viagère, mais la chaumière m'appartenait. Je les logeais pendant l'été, ils me protégeaient, car mon père, en mourant, m'avait légué à mon cousin, qui lui ressemblait comme un gros bourdon à un papillon. Monsieur Vidal Armand, ce père que j'aurais tant aimé, dont je ne gardais aucun souvenir précis, était un artiste de talent. Il avait fait construire la chaumière sur ses plans personnels. Bâtie en granit, couverte en chaume, elle se mariait admirablement avec le paysage normand. À l'intérieur, elle était élégamment et sobrement meublée, avec un goût qui rayonnait de la cave au grenier. Partout, de fraîches ébauches ou des toiles achevées, qui sont un des souvenirs lumineux de ma jeunesse. Devant deux beaux portraits de ma mère, morte à ma naissance, je rêvais chaque année aux douceurs inaccessibles que je voulais saisir d'un passé inconnu que j'aurais dû connaître. En pénétrant dans cette demeure élégante et champêtre, j'éprouve encore l'impression apaisante que donne l'harmonie. Mes cousins possédaient un appartement à Nantes où nous passions l'hiver, moi en pension, eux se dorlotant au coin du feu. Ils ne se reconnaissaient pas le droit, heureusement, de toucher à ma maison, si ce n'est pour les réparations indispensables. Braves, excellentes gens, qui ne comprenaient rien aux intelligences flâneuses, aux goûts fantaisistes, ils étaient bons, très bons pour moi, et au milieu de plus d'une vicissitude, mon cœur reste fidèlement attaché à leurs souvenirs. Ils m'avaient d'ailleurs très bien élevé et pétri de saines traditions. Ma cousine mettait la politesse au nombre des vertus, elle me parlait souvent des anciennes sociétés où les rapports amènes étaient de rigueur, où les femmes élevaient le bon ton à la hauteur de la dignité personnelle, où les salons conservaient la fleur exquise de l'urbanité et de la tolérance mutuelle. Il serait peut-être pénible d'établir des comparaisons, et bien que je ne sois pas parvenu à l'âge grognon où le temps de jadis était le seul aimable, mes réflexions sont parfois de méchante humeur. Nous nous aimions beaucoup, mes cousins et moi, quoique nos mentalités fussent bien différentes. Aussi, lorsque je suis rentrée toute seule dans ma chère demeure, j'ai cru que je tombais dans un vide dont je ne verrais jamais le fond. J'écoutais en pleurant les consolations de la vieille femme chargée en notre absence de garder la maison. sa voix bourdonnante, qui chaque jour répétait les mêmes phrases, demeura sans effet jusqu'au moment où la nature me parut encore jolie et le ruisseau encore charmant. Ce jour-là, je repris courage et regardai en face ma situation. Elle n'était pas heureuse. Non seulement je restais seule, sans rien pour remplir mon cœur affamé d'affection, mais j'étais sans argent, du moins je ne possédais qu'un revenu qui se montait en tout à 1 800 francs. À notre époque, une maison et 1 800 francs sont d'un poids léger. Toutefois, sans l'arrivée d'une facture oubliée, la question m'eût d'abord échappé, car de ma vie, n'ayant jamais manqué de rien, je n'avais songé sérieusement aux difficultés d'une existence sans fortune. Un oiseau était plus habile que moi pour gagner sa vie ou composer un budget bien équilibré. Mais quel équilibre pouvais-je donner au mien ? J'approchai des derniers deniers qui composaient une somme que mon vieux cousin, en partant, m'avait remise. Je me mis donc à réfléchir. Malheureusement, le temps était si beau, l'air si parfumé, que je reléguai dans un coin le souci matériel, tout en gémissant sur mon isolement et sur la perte irréparable des bons cœurs qui m'avaient aimé. Le bruit courait probablement dans le pays que je ne possédais ni sous ni maille, car plusieurs amis m'adressèrent des questions affectueusement indiscrètes. Je répondis d'un mot bref ou d'un air entendu, sans livrer mon embarras à des commentaires que je détestais. Je ne voulais pas de pitié à propos de mon budget. Il était évidemment trop mince, mais un beau matin, je le grossirais, c'était clair comme le jour. Un après-midi que je causais sur la plage avec l'agréable femme d'un notaire, son mari nous rejoignit et lui parla avec émotion d'une jeune veuve, leur cousine. Je la croyais dans une grande aisance, mais M. R. venait d'apprendre qu'elle avait, pour toute ressource, une maison et 2 000 francs de rente. On la plaignait. « Elle est logée. Ne peut-elle vivre avec sa rente ? » demandai-je en retenant mon souffle. « Et manger, mademoiselle Rita, ne mangez-vous pas ?»« Si, et même très bien, » dis-je avec un peu d'humeur. « Je la suppose dans le même cas. Il faudra qu'elle travaille. » Elle n'a jamais travaillé. Travailler à quoi ? Je ne sais, institutrice, dame de compagnie, comptable. Pourquoi pas demoiselle de magasin, la fille d'un général avec des habitudes comme les siennes ? Il faut vivre. Enfin, elle louera son chalet, je m'en charge. Ensuite, elle m'a parlé d'une parente riche et bonne, sans enfants. J'espère que, de ce côté, elle découvrira un filon. Ce notaire, tout sec dans ses aperçus, me parut insipide, bien que sa conversation m'ouvrit des horizons. Elle m'avait montré l'impossibilité pour moi de vivre sans revenu sérieux, et elle avait attiré mon attention vers un projet réalisable. Je ne possédais pas de parente riche et bonne à qui je puisse demander un appui, mais je connaissais l'adresse d'un parent éloigné de ma mère, banquier à Paris. Mes cousins, chaque année, échangeaient avec lui des cartes agrémentées d'un mot courtois. Il me trouverait facilement une situation si je m'adressais à son expérience. L'idée mûrit 2 semaines entières avant de se hasarder dans un chemin aussi inconnu. Un matin que je comptais ma bourse, je vis avec stupéfaction que, octobre arrivé, je ne joindrais plus les deux bouts. Cette découverte me rendit assez morose et le jour même, un beau jour de juillet chaud, éblouissant, je pris la décision qui devait me mettre en cage. J'écrivis à mon parent en lui exprimant le désir de travailler. J'aurais pu écrire à des amis nantais, mais il me répugnait de m'adresser aux gens qui m'avaient connue aussi satisfaite que le meunier de Sans Souci. Après un exposé, corrigé plusieurs fois, je terminai par ces mots. Il est vrai, pour être sincère, que je ne me connais aucune aptitude spéciale. Mon instruction a effleuré divers sujets et j'ai vécu jusqu'ici en jeune fille heureuse. M. Dubarral me répondit avec une promptitude surprenante en m'offrant de venir provisoirement habiter chez lui. « Je viens de perdre, m'écrivait-il, une copiste qui m'était très utile. Voulez-vous la remplacer si vos dispositions vous permettent de devenir une bonne dactylographe ? Ce serait d'abord un essai, après nous verrions. En attendant, je m'arrangerai de votre écriture, jolie et très lisible. Vous aurez le gîte, le couvert et 300 francs par mois pour vos dépenses personnelles. Puisque vous m'écrivez, c'est que monsieur et madame de Vimiane vous ont parlé de moi. Vous devez donc savoir que je suis veuf avec une fille qui a 15 ans. Je pars avec elle pour la Suisse, ne venez à Paris, si ma proposition vous agrée, que le 25 septembre. Suivez une formule polie. Je méditais longuement sur ces lignes froides comme un théorème. Quel homme est-ce ? Me disais-je, le cœur un peu transi, car la froideur du billet me concernait. Dans ma lettre, faiblesse ou naïveté, je parlais de mon isolement et cette pluie glacée me donna une sensation dont l'effet devait se prolonger. Premier repli d'une âme confiante en face d'une première fausse note. Je me moquais de moi-même. Néanmoins, l'inquiétude et le doute persistèrent jusqu'au moment où, les nuages se dissipant, l'avenir m'apparut sous un jour favorable. N'était-ce pas singulièrement heureux de trouver sans coup férir une occupation lucrative sous un toit où ma parenté m'assurait une vague protection? Le métier de copiste n'avait rien d'effrayant et les émoluments seraient plus que suffisants puisqu'ils s'ajoutaient à ma rente. Ainsi paré par l'optimisme de mes 20 ans, la situation me parut fort désirable et, allègrement, je rédigeai ma réponse. À mon gré, elle devait être simple, correcte, sans l'effusion qui, malgré moi, tentait de s'échapper en mots lyriques. Mon imagination ne pouvait broder, le billet était implacablement froid. Aucune allusion à notre parenté et cette omission, probablement volontaire, me blessait. Ma demande coïncidait avec un ennui de M. Dubarral et le tirait d'embarras. D'autre part, s'il m'offrait, sans m'avoir vu, l'hospitalité et du travail, ce succès devait remonter à mes cousins que M. Dubarral connaissait assez pour supposer que j'avais été élevé à l'ancienne mode qui offrait de sérieuses garanties, ceci dit, sans critiquer les modes actuelles. J'écrivis simplement « J'accepte votre proposition et vous remercie. Le 25 septembre, je serai à Paris. » D'ici là, je travaillerai la dactylographie dont je connais les premiers éléments et nous ferons l'essai dont vous voulez bien me parler. Recevez, monsieur, avec mes remerciements renouvelés, l'assurance de ma considération distinguée. Rita Vidal-Armon. Après quoi, pour soulager mon esprit oppressé, je dessinai en caricature M. Dubarral et je ris longtemps devant la figure que j'avais donnée à cet homme sérieux. Pendant les semaines qui précédèrent mon départ, je travaillais la dactylographie. Ma cousine, qui, ayant la vue fatiguée, ne pouvait ni coudre ni broder, avait acheté pour se distraire une machine à écrire. En m'amusant, j'avais appris à m'en servir, mais j'écrivais avec la vélocité d'une tortue. Comment me douter que ce tapotage prendrait un jour une place importante dans ma vie ? Malgré le dédain qu'il m'inspirait, je persistais sans faiblesse. J'allais même à Granville prendre les conseils d'un professionnel et après une heure d'ennui, je revins chez moi à la marée basse, pieds nus, par les grèves, m'enchantant au contact de l'embrun, enviant dans la nature jusqu'à la méduse, semblable à une gelée transparente qui nageait librement entre deux eaux. Mais pourquoi l'avenir ne serait-il pas chargé de joie ? Le temps magnifique, dans un pays où il pleut toujours, me parlait de satisfactions inconnues. En barbotant dans les flaques d'eau ou en marchant dans l'écume de la vague, je voyais un bonheur, je ne sais lequel, me tendre la main. Pourtant, ce ne fut pas sans appréhension que j'arrivais à Paris. M. Dubarral, ce 25 septembre, présidait un conseil d'administration, mais il avait donné des ordres et je fus reçu par une femme de chambre, âgée et polie à souhait. Elle me conduisit dans une chambre petite, confortable, que complétait un grand cabinet de toilette fort bien aménagé. « Et Mademoiselle Dubarral, la verrai-je » demandai-je timidement. « Mademoiselle Laurette passe la fin de ses vacances chez une amie, » répondit-elle avec froideur. « Vraiment ?»« Mademoiselle Vidal-Armon n'a besoin de rien ?» « Non, rien. Dois-je aider mademoiselle à défaire sa malle ? » reprit-elle avec condescendance. « Non, merci. Vous ne devez pas. Je le ferai moi-même. » La réponse et le ton remettaient à sa place cette femme moulée dans une correction glacée. Elle sortit de la chambre avec dignité. L'absence de Laurette du Barral était une déception. Je croyais que l'arrivée d'une jeune fille intéresserait ma cousine. Surtout, j'avais espéré de sa part un accueil cordial qui préparerait la voie à une intimité affectueuse. À 7 heures, on me prévint que monsieur m'attendait dans un salon. J'avais eu le temps, après m'être habillé, de me ressaisir et je me présentai devant mon parent sans laisser voir tout mon émoi. Il me tendit la main très aimablement avec un léger mouvement de surprise qui me flatta. Il s'attendait, je n'en doute pas, à recevoir une provinciale inélégante et embarrassée. M. du Barral m'adressa différentes questions qui achevèrent de me rendre tout mon aplomb. « Vous n'êtes pas encore majeur. Comment se fait-il que vous disposiez ainsi de votre liberté ?»« M. de Vimiane m'a fait émanciper à 18 ans, en prévision du malheur, hélas, arrivé si vite. » Mesure sage, lui et sa femme étaient ce qu'on appelle dans les campagnes du bon monde. Oh oui, très bon. Je me rappelle aussi votre mère. Elle était, comme vous, une femme mignonne et très jolie. Vous lui ressemblez. Je me sentais de plus en plus à l'aise. Je désire que vous vous plaisiez ici, mademoiselle Rita. J'y suis très disposée, croyez-le bien. Ce sera un peu austère pour vous, car vous aurez plusieurs heures de travail par jour. Tant mieux, je ne demande que cela. Ah, cependant, entre les lignes de votre lettre, je croyais comprendre que vous étiez un peu oisive en Normandie et que cette oisiveté ne vous déplaisait pas. Je me préparais à répondre par un discours enthousiaste sur la campagne et ses douces flâneries, sur ses occupations qui n'en sont pas et occupent pourtant, quand j'eus l'impression très nette que je parlerais hébreu. « L'heure de l'oisiveté est passée, » dis-je gaiement. « Je suis heureux de vos excellentes dispositions. Je crois vraiment que vous avez bien fait d'accepter ma proposition. Verrai-je prochainement ma cousine ?» demandai-je en hésitant. Je lui tendais un piège, il s'y laissa prendre incontinent. « Votre cousine ? Ah oui, pardon, nous sommes en effet parents éloignés. » « Ma fille viendra ici 2 jours seulement avant de retourner dans sa pension. Elle sera enchantée de vous connaître. Vous lui plairez, je crois, autant que ma dernière copiste lui déplaisait. » Il n'avait aucune intention de me blesser, je le voyais et comprenais très bien, mais le sang à la tête, je me promis de ne jamais parler d'une parenté assez superficielle à ses yeux pour qu'il l'oubliât, et que, même sans le vouloir, il me fit sentir si directement les distances. J'ignore comment un psychologue expliquerait l'impression de courage ou de délivrance qui en résulta pour moi. Ma situation, dans la maison, n'avait plus 2 aspects, j'étais une simple copiste et je résolus de m'en souvenir. « Quand entrerai-je en fonction ? » dis-je avec une certaine vivacité. « Vous êtes bien pressé. Je compte vous laisser 1 semaine de tranquillité pour vous installer et voir un peu Paris. Stéphanie, la femme de chambre, vous accompagnera dans vos courses en attendant que vous sachiez vous débrouiller seule. Je sais fort bien et n'ai nul besoin d'être accompagnée. Je connais Paris où je suis venue plusieurs fois. Alors tout est pour le mieux. » Monsieur du Barral, tout en m'observant beaucoup, continua à me faire causer et ainsi se passa une première soirée qui m'enlevait des illusions et me parut agréable par certains côtés. J'avais plu, c'était encourageant, toutefois je vis rapidement que, malgré des égards évidents et des attentions pour mon bien-être, je n'étais qu'une utilité, utilité agréable à regarder, je le savais, et je me cramponnais à la résolution de ne pas chercher à sortir de mon rôle. Bientôt, semblable à cela à mes bons et vieux cousins, M. du Barral, à certains égards, eut une piètre opinion de mon cerveau. Il me laissa même entendre que l'état de copiste était le contrepoids nécessaire à un esprit creux qui eût bâillé aux corneilles des jours entiers en regardant les vagues se mouvoir et les étoiles filer dans l'azur. « Habituez-vous au positif, me dit-il un jour, que, le nez en l'air, j'oubliais ma copie pour contempler une excellente reproduction d'un admirable Lorrain. En imagination, je me promenais sous des portiques éclairés par le soleil couchant. S'envoler en Italie, quel rêve! mais un jour ou l'autre il se réaliserait et je souriais à cette idée. Une belle œuvre est chose positive, répondis-je. Vous avez de bons tableaux dans vos salons. Vous vous y connaissez ? J'ai cela dans le sang, j'ai visité plus d'un musée, étudié en théorie les arts, surtout la peinture que j'aime à la folie. Les tableaux font bien sur les murs, répliqua-t-il distraitement. Allons, petite, travaillez, vous avez plusieurs copies devant vous. Je me remis à taper, mais je m'étonnais d'une absence si complète d'idéalisme. Des affaires, des chiffres, quel contraste avec la rosée qui baigne les fleurs par une belle matinée lumineuse. Avec le génie réalisé dans une belle toile. Pour moi, fleurs et génie étaient le positif, je faillis les introduire dans les copies que j'achevais assez rapidement. J'en profitais pour me croiser les bras et observer M. Dubarral. Il ressemblait à la caricature que j'en avais crayonnée à la chaumière, comme ressemble un chat à un lévrier. Il n'était ni sec, ni corpulent, ni grand, ni petit, mais jamais je n'avais vu de tête plus ronde. Le nez, la forme du visage, les yeux, tout était rond. L'expression était intelligente, les manières polies et l'ensemble assez distant. Me plaisait-il ou m'inspirait-il quelque défiance? Je ne savais comment répondre. « À quoi pensez-vous donc ?» me dit-il tout à coup. « Vous êtes loin de votre travail, ce me semble. »« J'ai terminé. »« Déjà ? Voyons cela. Mais c'est bien, vraiment bien. Vous connaissez le métier beaucoup mieux que vous ne le disiez. »« Je ne me vante jamais. »« En vérité, vous différez alors de beaucoup de gens. » Remarquez que je serais incapable de passer un examen, de dactylographier un nombre extraordinaire de pages en un nombre de minutes extraordinairement petit. Ces tours de force ne sont pas nécessaires chez moi. Votre travail me convient et n'a nul besoin d'être à chaque instant surveillé. Vous travaillerez donc dans le petit cabinet que voici. Il ouvrit une porte et me fit entrer dans une pièce qui, par ses proportions, ressemblait à une cabine de navire, moins le hublot pour l'éclairer, car la table à écrire était placée devant une large fenêtre qui ouvrait sur une cour. Trop de souris si tranquille que je l'aimais instantanément. « Je vous installe ici comme copie sans titre, » me dit M. Dubarral. « Voilà qui est solennel, » dis-je en m'inclinant, si cérémonieusement que sa bouche un peu raide ébaucha un sourire. « Très solennel, copie sans titre, toujours à ma disposition. Maintenant, petite Rita, je vous dicterai parfois des lettres confidentielles et je compte sur votre discrétion. »« Bien entendu, » répondis-je, offensé qu'une pareille question fût soulevée. « Bien entendu. » Oui, quand vous comprendrez, mais la plupart du temps, vous ne comprendrez pas. La langue des affaires n'est pas la vôtre. Je copierai ou rédigerai servilement, c'est tout simple. Oui, tout simple. Je vois que nous nous entendrons parfaitement bien. Il parut enchanté de moi et je pris possession de ma cabine en y transportant les objets nécessaires à mes graves fonctions. Dans la cour, j'aperçus des moineaux qui sautillaient et paraissaient contents de vivre malgré la poussière et l'ombre un peu triste. Bon exemple à suivre. Dans l'après-midi, Laurette Dubarral rentra chez elle pour 3 jours. Son père était en extase devant elle et son affection sans limite pour sa fille me le rendit plus sympathique. Il la trouvait incomparable et, de fait, elle était délicieuse, mais elle ne fit à moi qu'une attention très relative. Mes dernières illusions s'envolèrent, car elle ne chercha nullement à rappeler notre parenté, bien que son père eût choisi le parti de me présenter à ses amis comme une jeune cousine placée sous sa protection. J'attribuai ce changement à une courtoisie tardive. La réalité était différente. Laurette vit en moi une copice, dont le physique et les manières lui plurent, elle eut la bonté de m'en informer. Vous, au moins, vous êtes bien élevé, vous aurez du tact, je le vois bien. Surtout, vous ne chercherez pas à dominer papa. Comment à dominer? La chose ne se peut pas, et pourquoi faire? Ah, je voyais bien le jeu de cette intruse. Mais je bavarde, c'est moi qui manque de tact en ce moment. Elle s'échappa en riant, après m'avoir répété que je lui plaisais. ces quelques mots d'une jeune étourdie me firent en même temps du mal et du bien. Du bien en me confirmant dans mes résolutions de réserve extrême, du mal pour la même raison en me prouvant que, dans ma situation, on pouvait être facilement soupçonné de manœuvres louches. Quelle absurdité ! M. Dubarral avait près de 60 ans. En une minute, j'eus des aperçus, d'autant plus ignorés que ma confiance dans les hommes et dans la vie était immense. Je croyais fermement à la bonté générale, à l'intégrité non moins répandue. Je croyais que, dans cette agréable atmosphère, je suivrais mon petit bonhomme de chemin sans difficulté, sans surveiller mes paroles, comme si chacune d'elles était une boîte à double fond. Pour la bonté, il me parut que je ne me trompais pas. M. Dubarral me manifestait de la bienveillance, sans plus, et ma vie n'avait en soi rien de pénible si la vie consiste à être bien logé, bien nourri et bien traité. Au début, M. Dubarral me grondait quelquefois, mais sans acrimonie. « À quoi pensez-vous encore avec votre joli petit visage ennuyé ? Il faut réagir contre les distractions, mademoiselle. » « Je pense à ma chaumière, aux nuages. »« Nuages, chaumière, » répétait-il en haussant les épaules. « Vous avez besoin de connaître la vie, ma petite Rita. » Mais, à son ton, il était évidemment satisfait que je ne connusse pas la vie. Moi, j'étais convaincu que je la comprenais mieux que tous les banquiers de la terre. Les fleurs, qu'elles soient fleurs de l'esprit, du génie, de l'âme ou fleurs des jardins, n'ont pas été créées pour les ensevelir sous des chiffres. En somme, si le riche intérieur de M. Dubarral contenait de belles choses, c'était principalement pour plaire aux autres. M. Dubarral le disait lui-même, « Les tableaux font bien sur les murs ». Cette phrase devenait pour moi un trait de caractère.